La Fabrique Politique. Bonjour, il est 13h sur Campus Grenoble 90.8. Bienvenue dans ce numéro de La Fabrique Politique. Comme c'est encore la rentrée, je vous réexplique en deux mots le concept. Dans cette émission, on essaye de raconter le qui fait quoi des politiques publiques. On s'efforce de démonter la grande machine de la puissance publique pour comprendre comment elle marche, qui est responsable de quoi, qui décide, qui met en œuvre. À chaque émission, on choisit un thème, un objet politique, par exemple le logement, la lutte contre le chômage, la sécurité, la protection de l'environnement. On essaye de soulever le voile pour observer les acteurs à la manœuvre, leurs objectifs, leur façon de travailler, leurs intérêts. Sans parti pris, même si c'est parfois dur de rester neutre, mais pour vous aider à vous faire votre propre idée sur le fonctionnement de nos institutions. Pour nous y aider, nous interrogeons à chaque fois une actrice ou un acteur plongé au cœur de la machine à fabriquer du politique, selon le thème abordé. Nous avons abordé lors de la première émission l'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, on change radicalement de sujet. On aborde un sujet dur, le plus dur sans doute qu'on aura à traiter dans la fabrique politique, la gestion des attentats.
On va faire le point maintenant en images. Je rappelle, le bilan est actuellement de 30 morts. Laurence Dragon, le commentaire.
La première attaque a eu lieu dans la salle de spectacle du Bataclan, dans le 11e arrondissement de Paris. Une fusillade a éclaté. Bilan provisoire, 15 morts. Une prise d'otage est en cours. Les hommes du raid sont en action. Deuxième attaque aux portes du Stade de France à Saint-Denis. Un kamikaze aurait fait sauter sa ceinture d'explosifs lors de la première période du match France-Allemagne. De sources policières, il y aurait au moins 3 morts. François Hollande, qui était présent, a été exfiltré. Il a rejoint Bernard Cazeneuve au ministère de l'Intérieur où se tient une réunion de crise. La troisième attaque s'est déroulée dans un restaurant du 10e arrondissement près de la République. Des tirs de fusils mitrailleurs ont éclaté. Les tireurs n'ont pas été interpellés. On dénombre là encore de nombreuses victimes. D'importants moyens et forces de l'ordre sont actuellement déployés dans tout l'Est parisien.
C'est une archive du 13 novembre 2015, en début de soirée. Cette nuit-là, plusieurs attaques simultanées feront au final 130 morts et plus de 400 blessés à Paris et à Saint-Denis autour du Stade de France, à des terrasses de café et dans la salle de concert du Bataclan. C'est l'acte terroriste le plus grave, le plus sanglant depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en France. Nous allons partir de cette tragédie pour décrypter la mobilisation des institutions républicaines quand une telle violence survient sur le territoire français. Et nous allons le faire avec notre invitée, Constance Rivière, qui était à l'époque directrice adjointe du cabinet du président Hollande et qui était aux côtés du président ce soir-là, du 13 novembre 2015, au Stade de France. Bonjour Constance Rivière.
Bonjour.
Merci du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation. Bien entendu, vous nous direz ce que vous pourrez avec toutes les limites que vous voudrez fixer, que ce soit en termes de confidentialité, bien sûr de respect des victimes ou tout simplement de ce dont vous avez été ou non témoin. Et ma première question, elle va être très simple. Est-ce que vous pouvez nous raconter les premières minutes, le moment où tout bascule depuis l'alerte dans les loges du Stade de France jusqu'au retour à l'Élysée?
Donc au Stade de France, moi j'accompagne le président... à un titre en réalité presque privé. C'est la première fois que je vais au Stade de France et je suis quelques rangs devant le président de la République en train d'assister au match au moment où un premier bruit se fait entendre que j'assimile pour ma part à un pétard, ne connaissant absolument pas les différentes traditions qui peuvent se faire autour d'un match de foot. Donc je ne réagis pas du tout. Puis un deuxième qui me semble plus étrange. Et donc là, je me retourne. Et je vois la responsable de la sécurité du président de la République lui parler à l'oreille et lui faire signe de le suivre. Donc là, je comprends immédiatement qu'il se passe quelque chose de grave et je pars avec le président, deux autres conseillers et les responsables de la sécurité et on se rend dans le PC sécurité du Stade de France, où les responsables de la sécurité du Stade de France nous montrent les premières images avec les explosions. Et là, le président de la République prend immédiatement une première décision, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucune panique dans le Stade de France. Ce qui l'inquiète à ce moment-là, à un moment où on ne sait absolument pas ce qui se déroule à Paris, on est vraiment à Saint-Denis, c'est que un mouvement de panique puisse avoir des conséquences désastreuses dans un endroit comme celui du Stade de France où il y a une foule immense et on connaît les conséquences que peuvent avoir des mouvements de foule.
Et là, vous n'avez aucune info sur ce qui se passe ailleurs dans Paris. Pour l'instant, c'est sur le Stade de France.
Pour l'instant, il ne se passe rien à Paris.
D'accord. Ah, ça a commencé au Stade de France.
Les attentats commencent au Stade de France à Saint-Denis et les tirs dans les bars à Paris commencent un peu plus tard.
D'accord.
Et donc, c'est OPC Sécurité, le président de la République appelle le ministre de l'Intérieur pour avoir un premier échange avec lui sur ce qui se passe à Saint-Denis. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'il y a des tirs, on ne sait pour l'instant absolument rien, des tirs dans Paris.
D'accord.
Le ministre de l'Intérieur rejoint le président de la République au Stade de France.
OPC du Stade de France.
Okay. OPC Sécurité du Stade de France. Et il y a une première réunion qui se tient au Stade de France. Et dès que le président apprend que des tirs sont en cours à Paris, il décide immédiatement de rallier le ministère de l'Intérieur avec le ministre Bernard Cazeneuve. Mais il prend le temps préalablement d'aller informer les personnalités présentes dans le Stade de France.
Il retourne dans les tribunes pour leur
dire. Il retourne dans les tribunes. Et il demande à ses ministres présents et à un ministre allemand qui était invité à voir le match de ne surtout pas bouger et de rester dans les tribunes pour que qu'il n'y ait pas de panique, qu'on n'ait pas soudain les tribunes officielles qui se vident, avec évidemment un effet sur le reste des spectateurs qui serait dramatique.
Et ensuite, ce n'est pas à l'Élysée que vous allez, c'est à l'intérieur, c'est au ministère de l'Intérieur.
Donc ensuite, ensuite est déclenché. La cellule de crise du ministère de l'Intérieur.
D'accord.
Qui est donc dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur, en face de l'Élysée.
Okay. Ah oui, c'est juste en face géographiquement, pour ceux qui ne visualisent pas forcément. Le ministère de l'Intérieur, c'est vraiment juste en face de l'Élysée, en fait, dans Paris. C'est
exactement, okay. C'est de l'autre côté de la rue, donc okay. C'est à 2 minutes à pied.
Okay.
Donc là, le cortège du président de la République et du ministre de l'Intérieur rentre du Stade de France jusqu'à la place Beauvau où se situe le ministère de l'Intérieur avec une rapidité, je pense, qui n'a jamais été vue, donc sans doute une dizaine de minutes sur un parcours qui en général met plutôt 30 minutes.
Ouais,
et quand ils arrivent, la cellule de crise a déjà été déclenchée et les responsables des différents ministères qui vont ensuite être mobilisés sont présents autour de la table. Donc évidemment.
Donc ça, c'est la cellule de crise telle qu'elle est composée traditionnellement. Et là, ça veut dire que dedans, il y a, vous dites, des représentants de différents ministères qui sont de toute façon dans cette cellule.
Oui, la composition de la cellule de crise est une composition qui est toujours la même avec des représentants du ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur, évidemment, les polices nationales, gendarmerie nationale, du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères. Et donc, ils sont déjà tous présents au moment où le président de la République et le ministre de l'Intérieur arrivent pour présider la première réunion de cette cellule de crise.
Et ce sont, quand on dit des responsables, ça veut dire que ce sont les ministres eux-mêmes, ce sont des membres de leur cabinet, ce sont des membres de l'administration, c'est un peu tout ça mélangé. C'est qui,
en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la cellule de crise, pendant une crise, elle est réunie en continu. Et donc, il y a toujours des représentants de ces différentes entités, mais en fonction des moments, le représentant varie. Ça peut être le ministre, ça peut être son directeur de cabinet, ça peut être le directeur général de la police nationale, qui souvent est là, de toute façon, en même temps, ou son représentant.
Donc, il faut imaginer quelque chose qui est en continu, qui s'étire dans le temps,
avec
en fait.
Avec des gens qui rentrent et qui sortent, mais une continuité sur les entités qui sont présentes dans la cellule.
D'accord.
Et des décisions qui sont prises en général au moment où le ministre ou le président de la République ou le Premier ministre préside la cellule de crise.
Oui, parce qu'il y a bien une histoire de présider, de coordonner. Donc là, évidemment, quand c'est le président, c'est lui qui préside. Et à d'autres moments, ça peut être d'autres personnalités qui président la cellule.
Exactement. Typiquement, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur est très mobilisé dans l'organisation et de la cellule de crise.
D'accord, ça veut dire que c'est plus le ministre de l'Intérieur et son directeur de cabinet qui sont la pierre angulaire. Ça ne va pas être, par exemple, le directeur de cabinet du Premier ministre ou le secrétaire général de l'Élysée qui vont présider, c'est bien le ministère de l'Intérieur qui a la main sur
c'est
l'organisation.
Le ministère de l'Intérieur, d'accord. Tout à fait. C'est le ministère de l'Intérieur qui est l'organisme interministériel qui est en charge de coordonner les différents volets de la crise.
D'accord. Et là, ça fait à peu près combien de personnes quand vous arrivez là dans la cellule de crise? Il y a déjà, ça représente beaucoup.
Une trentaine de personnes.
Ah oui, c'est beaucoup de monde.
Et personnes avec, donc c'est une salle en sous-sol, ouais, avec une table ovale et des écrans qui sont disposés avec des informations. En l'occurrence, une carte de Paris.
Est-ce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans les séries, finalement, comme dans la série avec Mathieu Kassovitz sur les services secrets, là, où on voit effectivement ces salles avec des grands écrans c'est un peu l'imagerie qu'on peut avoir?
C'est plus sombre de mémoire dans les séries. On est dans des salles très lumineuses avec des fenêtres. Là, on est en sous-sol.
En sous-sol, ouais.
Donc, c'est complètement fermé, quoi. Mm-hmm. Une ambiance...
Non, de toute façon. Et alors, donc là, le président arrive et là, charge à lui de prendre des décisions.
Le président arrive, il a déjà d'être informé, ouais, puisque il arrive au moment où ont lieu tous les tirs dans les différents bars qui ont été touchés. Et c'est là qu'il apprend qu'il y a une prise d'otage qui est en cours au Bataclan. Donc là, la question, c'est vraiment la prise de décision opérationnelle sur qui intervient, à quel moment.
Sur la prise d'otage.
Sur la prise d'otage. Ouais. Et sur l'organisation, évidemment, des secours. Mais tout ça, les gens n'attendent pas, notamment pour les secours, les décisions de la cellule de crise pour commencer à intervenir dans tous les lieux où il y a nécessité de le faire.
Ça veut dire que du côté, par exemple, des hôpitaux ou du circuit de la prise en charge de soins, il y a des plans qui sont prévus et qui se sont mis en branle.
Pour aux victimes, exactement.
D'accord. Et alors effectivement, c'est cette situation effroyable de la prise d'otage au Bataclan, qui va conseiller le président dans sa prise de décision? C'est-à-dire que là, les 30 personnes peuvent intervenir pour essayer d'étayer cette décision-là?
Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, parce que je n'étais pas là à ce moment précis, mais de toute façon, quand le président de la République est présent, les 30 n'interviennent pas de manière désordonnée. Et ceux qui interviennent de manière prioritaire, c'est vraiment évidemment directeur général de la police nationale, directeur général de la gendarmerie nationale, le ministre de l'Intérieur.
Et vous, votre rôle à ce moment-là, quel est-il à ce moment de la nuit très particulier où finalement ça c'est encore en cours, en fait, les attentats?
Alors, à ce moment de la nuit, chacun définit aussi un peu son rôle par la manière dont il peut aider. Il faut être très modeste dans ces moments-là. Moi, mon souci, c'est de savoir comment vont être pris en charge toutes les familles des victimes déjà déclarées pour ce qu'on sait et probables concernant le Bataclan, dans la mesure où c'était un des sujets que j'avais suivi au moment des attentats de Charlie Hebdo au début de cette année-là.
Ah oui, c'est vrai qu'il faut se souvenir qu'il y a déjà un contexte, en fait. C'est-à-dire qu'on avait subi en janvier, le 7 janvier, si ma mémoire est bonne, de cette même année, les attaques contre Charlie et puis contre l'hypercacher à Paris.
Et
c'était déjà vous qui aviez suivi la question des victimes.
De la prise en charge des victimes. Et suite aux attentats de Charlie Hebdo, un travail avait été engagé avec les différents ministères concernés par la prise en charge des victimes. Donc le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et des Affaires Sociales, le ministère des Affaires Étrangères pour tout ce qui concerne notamment les victimes étrangères. Et on avait travaillé à l'élaboration d'une circulaire interministérielle, donc d'un document dans lequel on élaborait une procédure à suivre pour permettre une prise en charge et un accompagnement des victimes immédiatement après la catastrophe sur le sol national. Et cette circulaire est parue ce jour-là.
Incroyable.
Le matin.
On va bientôt devoir faire une petite pause musicale. On reprendra du coup cette question de l'aide aux victimes. Une dernière question avant de faire cette pause. La nuit progresse. On sait ensuite ce qu'il advient. Donc là, finalement, comment elle se termine pour vous cette première nuit? Comment on repart de là en fait le matin? Qu'est-ce qui se passe sur cette
première nuit? La première nuit, on est d'abord donc au ministère de l'Intérieur à Beauvau, et à minuit la décision est prise de déclarer l'état d'urgence, ce qui suppose un conseil des ministres extraordinaire, et d'adopter et de faire signer un certain nombre de textes. Donc ensuite la nuit pour moi se poursuit jusqu'à 4 heures du matin à l'Élysée sur ces questions d'état d'urgence.
C'est-à-dire de faire que les textes soient disponibles pour les faire signer pour mettre en œuvre cet état d'urgence qui suppose que c'est le président lui-même qui doit signer des décrets,
c'est quelque chose. C'est les ministres compétents. qui doivent d'abord signer, okay. et ensuite le président de la République à l'issue d'une procédure obligatoire donc de réunion d'un conseil des ministres.
D'accord. Ok, on fait une courte pause musicale, on se retrouve juste après.
Line to tell the
Vous êtes de nouveau dans la fabrique politique 90.8 sur Campus Grenoble avec Constance Rivière qui était directrice adjointe du cabinet du président Hollande en 2015 au moment des attentats. Et on parle avec elle de cet événement tragique du 13 novembre 2015 et de la manière dont s'est organisée la réaction des institutions. On a évoqué il y a quelques instants la première soirée, la première nuit. On va parler maintenant des jours et des semaines qui suivent. Alors avant de regarder de plus près ce que vous avez pu mener de votre côté, est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement et sans évidemment trahir de secret, sur les semaines qui viennent finalement, qui fait quoi ? Est-ce que de nouveau continue à se réunir la cellule de crise ? Est-ce qu'il y a des acteurs qui rentrent en jeu qui n'étaient pas encore rentrés jusque-là ? Globalement, sur les premières semaines, est-ce que par exemple c'est la justice qui maintenant a la main, parce qu'on se souvient du procureur qui intervient ? Voilà, un peu le qui fait quoi des premières semaines ?
Alors, beaucoup d'acteurs continuent à intervenir, je dirais pas forcément dans les semaines, mais au moins dans les jours qui viennent. La cellule de crise reste active encore un peu. Évidemment, il y a un rôle du ministère de la Santé avec un nombre de blessés extrêmement important qui coordonne tous les dispositifs.
Ça veut dire que le ministère lui-même intervient pour coordonner les hôpitaux, la répartition des blessés
avec les hôpitaux de Paris, qui évidemment sont la cheville ouvrière pour intervenir, avec dans les jours qui suivent encore des personnes en urgence absolue, beaucoup de blessés en urgence relative, un nombre de passages dans les hôpitaux qui de mémoire doit approcher le millier de personnes, avec aussi des traumatisés psychiques qui vont aller ensuite en consultation. Ensuite, il y a un dispositif qui se met en place sur les questions de sécurité et notamment pour identifier les responsables de l'attaque, avec la tenue quotidienne de mémoire autour du président de la République de ce qu'on appelle un conseil de défense qui réunit le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, les responsables des différents services de renseignement.
Et là, avec vraiment pour objet d'identifier les auteurs, finalement.
D'identifier, de suivre, aussi avec évidemment le souci qu'il n'y ait pas d'autres attentats. Oui. On se souvient que pour Charlie Hebdo, il y a les attentats de Charlie, avec le lendemain l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe et puis deux jours après l'hypercachère. Donc la crainte des répliques est évidemment une préoccupation constante.
Et du côté de la justice, il y a aussi quelque chose qui se met en branle.
Et donc ensuite, par ailleurs, donc le procureur est associé au conseil de défense et donc à tout son rôle à jouer en tant qu'autorité judiciaire. Et par ailleurs, est décidé dans la nuit du 13 au 14 novembre de déclencher la cellule interministérielle d'aide aux victimes qui va s'installer au ministère des Affaires étrangères qui a une grande habitude de gestion interministérielle des crises et qui réunit le ministère de la Justice, des agents du ministère des Affaires étrangères, des bénévoles et des associations. Il faut le souligner, il y a des associations d'aide aux victimes qui ont été extrêmement présentes à ce moment-là pour aider des volontaires et des équipes de la Croix-Rouge, du SAMU.
Alors ça,
et par ailleurs, des cellules médico-psychologiques.
D'accord, ça pour le toujours pareil pour l'accueil des victimes qui sont en état de choc ou on imagine de troubles derrière.
Et pas seulement, beaucoup pour des familles qui sont dans l'attente d'avoir des nouvelles de leurs proches.
Parce que cette attente dure longtemps ?
Beaucoup trop longtemps, toujours beaucoup trop longtemps. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que jamais, vous l'avez rappelé au début de l'émission, la France n'a été confrontée à un attentat de cette ampleur dans une salle de concert dans laquelle sont présentes des milliers de personnes. Et donc les proches qui savent que une personne de leur connaissance, un fils, une fille, un mari, un conjoint, sont dans cette salle, cherchent des nouvelles. Et parmi les personnes qui étaient au Bataclan, il y en a qui sont en état de choc, il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont morts. Dispositif pour permettre d'identifier les personnes prend du temps. Mmh. À la fin de la journée du 14 novembre, je pense que la moitié des personnes, des familles décédées ont eu une information définitive.
Et ça, c'est donc la cellule dont vous parlez qui est au ministère des Affaires étrangères, qui a la responsabilité, y compris de faire le lien avec les familles, de les informer.
Alors, c'est cette cellule qui a cette responsabilité. En l'occurrence, ça a été décidé par le centre de crise, l'ouverture d'un accueil de toutes les familles des victimes. Un accueil physique.
D'accord.
À l'école militaire et okay. Donc est mis en place dans la journée avec beaucoup de bonne volonté mais aussi des difficultés et des ignorances sur où sont les gens, l'accueil des familles qui viennent assez nombreuses pour essayer d'avoir des nouvelles que personne ne peut leur donner tant que le procureur, vous parliez de la justice, tant que le procureur n'a pas fiabilisé les informations concernant les personnes décédées.
Ah, donc là, il y a quelque chose qui se joue avec la justice, c'est-à-dire que pour pouvoir donner une information fiable, il faut qu'elle ait été validée par, le procureur. Et donc là, ça peut créer un délai pour l'information. Mais par contre, une fois qu'elle est donnée, on est sûr de l'information.
Exactement.
Ok. Tout à l'heure, vous parliez d'une circulaire qui, coïncidence incroyable, est parue le 13 novembre sur la question de l'aide aux victimes. Est-ce à dire que là, vous suivez les termes de cette circulaire ou vous en suivez une partie et puis il y a quelque chose de l'ordre de s'adapter au contexte qui se met en place. C'est intéressant pour les auditeurs de savoir finalement qu'est-ce qui est dans les clous des textes prévus, qu'est-ce qui en sort dans ces situations totalement exceptionnelles.
Pour le suivi dans la durée, la circulaire a permis d'avoir un outil méthodologique pour l'ensemble des personnes qui participent extrêmement précieux. Pour l'immédiateté, la circulaire, par exemple, ne prévoit absolument pas d'accueil physique.
Ah oui.
Et d'ailleurs, au moment de Charlie Hebdo, personne n'aurait songé à prévoir cet accueil physique. Là, compte tenu du nombre de personnes concernées, de la difficulté à pouvoir par téléphone donner des informations qui sont fiables, a convaincu les autorités assez rapidement qu'il était indispensable pour les personnes qui le souhaitaient évidemment,
bien sûr, ouais.
Mais de pouvoir échanger avec des autorités, d'être dans un endroit un peu sécurisant, d'être aussi accompagné par des psychologues, des secouristes, et de ne pas être laissé seul. Ça, c'est un élément de nouveauté, disons, et d'ailleurs des adaptations ont ensuite été prévues pour tenir compte des difficultés qui ont pu être rencontrées suite à ces attentats.
D'accord. Alors j'avais deux questions connexes sur effectivement qui se mobilise. Là, on voit la mobilisation du pouvoir exécutif, on voit la mobilisation du pouvoir judiciaire. Est-ce que le pouvoir législatif intervient dans ces premiers jours ou c'est quelque chose qui n'est pas de son registre pour le démarrage et puis il revient plus tard? Est-ce que les députés, est-ce que les parlementaires, est-ce qu'ils ont une place dans l'histoire à ce moment-là?
Alors, de toute façon, pour l'état d'urgence, il doit ensuite être soumis au Parlement.
D'accord.
C'est-à-dire que l'état d'urgence est proclamé par l'exécutif, mais ensuite la représentation nationale est consultée. Par ailleurs, comme vous vous en souvenez peut-être, le choix qui est fait par le président de la République immédiatement après les attentats, c'est de s'exprimer devant le Congrès réuni.
Ah oui.
Le Congrès réuni, c'est-à-dire tous les députés et tous les sénateurs réunis en formation plénière, ce qui se fait de manière extrêmement rare pour avoir cette adresse directe à la représentation nationale.
Qui intervient quand ?
Le mardi de mémoire.
D'accord, très vite.
Très vite. 3 ou 4 jours après.
Et le sens d'une telle adresse à la représentation nationale, quand vous avez, j'imagine, réfléchi au sein de l'équipe, de quel message on adresse finalement? Parce que c'était ma deuxième question, c'est finalement qu'est-ce qu'on dit aux citoyens dans ces situations? Ça me paraît être une question très délicate. Hein. Qui leur parle et qu'est-ce qu'on dit en fait dans ces cas-là aux citoyens d'un pays qui est frappé comme ça et qui décide de ce qu'on dit?
Il y a plusieurs temps dans ce qui est dit. Il y a le temps de l'immédiateté où doivent pouvoir être données des informations sur les risques qui peuvent continuer à peser sur la sécurité, parce que c'est bien sûr la première préoccupation. Et ensuite, sur les mesures qui sont prises pour éviter que, ou en tout cas, éviter au maximum que des attentats de ce type-là puissent se reproduire. Le choix qui est fait par le président de la République, c'est d'être dans un rassemblement et d'éviter des débats politiciens dans un moment de deuil national où il y a besoin que tout le monde puisse d'une certaine manière participer au relèvement du pays. Il s'adresse au Congrès. Il a aussi, dans ces moments-là, consulté le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les anciens présidents de la République, pour échanger avec les représentants des principaux partis, pour essayer de trouver cette réponse de rassemblement. Et le sens de son discours au Congrès, c'est de prendre en compte des propositions venant de tous les partis, de se placer vraiment comme président de la République au-dessus des partis pour faire en sorte d'avoir cette représentation nationale unie pour rassurer les citoyens.
Et ça fonctionne ? Est-ce que vous avez des souvenirs de...
Dans un premier temps, ça fonctionne.
Ouais.
Le moment du Congrès est un vrai moment d'unité. Ça se fissure ensuite assez rapidement.
Par les partis, en fait.
Par les partis.
Ouais.
Par les partis d'opposition, mais aussi par la majorité, avec notamment la question qui a fait l'objet de beaucoup de débats de la déchéance de nationalité.
D'accord. On va refaire une petite pause musicale juste avant une question très concrète. Finalement, la période critique, cette période de... très particulière où tout le monde est en mobilisation maximale, vous diriez qu'elle a duré combien de temps ? C'est quelques heures, quelques jours, quelques semaines ? Est-ce qu'il y a un moment où les services retrouvent une forme de normalité ? Est-ce que vous avez retrouvé une forme de normalité au bout d'un certain temps ?
Je dirais deux semaines. Je pense que il y a une forme de normalité qui revient début décembre.
D'accord.
Après l'hommage aux Invalides, en réalité, tant qu'il n'y a pas eu un moment d'hommage et de clôture de cette période, l'État fonctionne tourné vers cette question-là, avec cette spécificité qui est qu'on va entrer dans la COP21.
Ah oui, en plus, c'est intéressant. Donc les agendas se bousculent.
Exactement.
Merci beaucoup, on se retrouve dans un instant après une nouvelle pause musicale.
He's dead at the hands of the angels of love. Yeah, wings are clipped, the poison by fangs of fewer sin. While the serpent cried for the devil within. He's got a mistress who feeds on berries and wine. His fools go crowned by the hand of time. I got a bone to pick with a valley of death. And this six-stringed hearse who runs the crystals of myth. Black angels will cry. I swear to you, Jimmy, I'm alive. Right on, Jimmy, your hate feel no snap out of me. Four hours it took for Jones and his men to reach
to where I buried your pen. Your plan lives in the sand, the soil of sin. The blood stained world by the white of your skin. Your black hat cries to the darkness of old. Penance is paid and our future got sober. My money's like a love, I got no receiving. The levee bank breaks like the will to live. And that river ran dry with my necktie hung from the sky. Now the pig hangs low on the back of the truck. His killer is caged by the dog of his lust. And if there's a flower burn for a bound to hide, nightly he pines for 9 or 10 of his wives. He's not angry, he's just sorry. He's not angry, he's just sorry. Oh, but it makes no difference what the hangman says when his noose is tied to the doctor's bed. All the pain is over now. Grass and milk stolen from the sacred cow. Suck on that tip for him. Mother's milk disguised like a horse of truth.
Retour sur la Fabrique Politique 90.8 Campus Grenoble avec Constance Rivière. On parle de la tragédie du 13 novembre 2015, les attentats qui ont frappé Paris. Constance Rivière qui à l'époque était aux côtés du président de la République François Hollande. On a évoqué avec vous voilà, la première nuit et puis les jours et les semaines qui suivent, comment la machine républicaine tente de se mettre en œuvre et de réagir. Ma question là, ce serait d'essayer de prendre un peu de recul. Finalement, avec le recul d'aujourd'hui, quel regard vous portez sur la façon dont la machine républicaine a réagi? Est-ce que vous estimez que il y a des points qui ont été peut-être qui auraient pu être gérés différemment, ou est-ce qu'au contraire, ça, vous avez plutôt une vision que c'est quelque chose a fonctionné en fait ce soir-là et ces jours-là?
Je pense que ce qu'il faut d'abord dire, c'est que l'organisation des différents services de l'État et leur mobilisation immédiate a été absolument impeccable et avec vraiment un engagement de fonctionnaires de venant de ministères extrêmement différents, de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires comme de fonctionnaires ayant moins de responsabilités, qui ont été présents sur ces jours avec une exemplarité qui, je crois, fait l'honneur de l'État. Ensuite, il y a la question quand même de la manière dont les forces de sécurité et les décisions prises ont permis d'intervenir au Bataclan. Et je pense qu'au moment où les différents scénarios sont proposés, l'hypothèse que l'intervention se fasse sans mort supplémentaire est une hypothèse faible. Et donc, à cet égard, l'intervention est une intervention très remarquable. Et puis ensuite, sur l'identification des auteurs et le fait de remonter les circuits, là encore, il y a un fonctionnement très, très satisfaisant. Ensuite, il y a des décisions politiques qui sont prises, notamment sur le renforcement d'un certain nombre de textes, sur le renseignement, le renforcement, y compris du régime de l'état d'urgence, qui est un régime qui date de 1955 et qui n'avait jamais été révisé depuis cette date.
Et donc là, il est révisé dans les semaines qui suivent l'attentat.
Dans les heures qui suivent, d'accord. Pour tenir compte, notamment du fait qu'un certain nombre d'informations sont aujourd'hui contenues sur des ordinateurs qui n'existaient pas en 1955, pour tenir compte de la nécessité de faire des perquisitions administratives et pour adapter notre droit. Et donc là, dans les jours qui viennent, il y a les agents sur le terrain, ceux qui cherchent, mais il y a aussi toutes les équipes juridiques, notamment à Matignon, au secrétariat général du gouvernement, qui est au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice, qui travaillent pour essayer d'avoir le cadre légal, juridique, le plus adapté possible, en tenant compte de la nécessité de respecter les libertés fondamentales.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, évidemment, on espère du fond du cœur que ça ne se produira pas, mais admettons qu'un événement tragique intervienne, le cadre d'intervention serait différent aujourd'hui, la loi serait différente, les acteurs auraient d'autres référentiels d'intervention ?
Aujourd'hui, il y a beaucoup de textes qui ont changé, oui, qui ont changé immédiatement après les attentats en 2015-2016 et aussi avec la loi de sécurité intérieure, avec le cadre d'intervention des services de renseignement, avec un renforcement des pouvoirs administratifs. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le même droit qu'il y a 5 ans.
Sur la question de l'aide aux victimes que vous avez particulièrement suivi, là aussi, il y a des choses qui ont évolué, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais à l'aune de cette expérience, dans toute la complexité qui est apparue en fait, ce jour-là, dont on n'avait pas forcément pris compte auparavant. Donc ça a fait bouger aussi les lignes et les cadres d'intervention de ce point de vue.
Alors, beaucoup de choses ont évolué. Certaines avaient commencé à évoluer puisqu'il y avait déjà eu cette réflexion engagée suite aux attentats de Charlie Hebdo. Mais ensuite, a été nommé un secrétaire d'État en charge de la question des victimes avec le choix d'un pilotage politique qui a eu ses effets, par exemple, au moment des attentats à Nice et une organisation beaucoup plus cadrée avec la tentative d'élaborer des hypothèses pour ne pas avoir à se poser des questions difficiles une fois que l'événement est survenu, mais avoir ce cadre d'action, ce qui est très important. A évolué aussi le cadre d'indemnisation des victimes avec un très important travail du ministère de la Justice.
Ça veut dire quoi ça concrètement? Qu'est-ce qui change? Comment ça marche d'ailleurs, si vous avez juste 2-3 éléments pour faire comprendre l'indemnisation des victimes? Qui est indemnisé en fait et qui décide des montants d'indemnisation?
Alors, il y a un fonds qui s'appelle le fonds d'indemnisation des victimes de garantie et fonds de garantie d'indemnisation des victimes du terrorisme qui a un certain nombre de définitions pour dire qui est victime avec des cadres, les victimes directes, les personnes blessées, les proches d'une personne décédée, les impliqués, et qui va, en fonction de la situation de chacun, faire une proposition d'indemnisation.
Et ça, c'est aux mains du pouvoir judiciaire ou du pouvoir exécutif ?
Ça, c'est exécutif.
C'est
au ministère de la Justice, mais...
Mais c'est pas les juges, c'est le ministère dans son volet
administratif.
D'accord. Ouais. D'accord. Donc là, de ce point de vue, les choses seraient différentes puisque on a structuré finalement une capacité de réponse. Est-ce que ça veut dire, vous parliez de définir des hypothèses, ça veut dire que par exemple, depuis ce moment-là, il y a eu, alors je pense par exemple à des choses que j'ai pu voir dans des écoles, mais des exercices qui ont été mis en place dans des lieux sensibles pour des plans de sûreté ou des exercices dans les services publics pour essayer de savoir réagir en fait à ces situations.
Oui, alors il y a en permanence des exercices. Je voudrais pas non plus donner l'impression que ça n'existait pas.
D'accord,
avant.
Okay,
par exemple, des exercices dans les hôpitaux sont régulièrement faits. Maintenant, je crois qu'il y a des exercices dans les écoles de manière systématique, mais je pense que ça se faisait déjà à certains égards. Donc, il y a une prise en compte de ce sujet et de ce risque, clairement, qui a infusé l'ensemble de la société avec des procédures, mais la France avait déjà été confrontée à des attentats et donc on n'était pas non plus sur un terrain vierge.
D'accord. Non, mais c'est vrai que ce qui était frappant, c'est ce que vous disiez par exemple sur le fait que ce qui n'avait pas bougé depuis 1955, effectivement, on se dit que là il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la mise à jour à faire, mais tout n'était pas de cet ordre-là. Il y avait quand même déjà un travail fait et une culture dans les services publics de la réaction à ce type d'événement.
Par exemple, un des premiers dispositifs qui est mis en place pour intervenir, c'est les cellules d'urgence médico-psychologique qui avaient été créée par Emmanueli, je crois, suite aux attentats à Saint-Michel en 1995. Donc il y a des dispositifs qui ont,
qui existent déjà,
qui ont aussi une ancienneté.
D'accord. Pour boucler, pour conclure, je fais juste un aparté. Vous travaillez aujourd'hui aux côtés du défenseur des droits en tant que secrétaire général. Est-ce que, pareil dans une histoire de qui fait quoi, est-ce que le défenseur des droits intervient dans le champ des politiques de sûreté, j'allais dire, on pense aux questions des urgences. Est-ce qu'il a un rôle là-dedans? Est-ce que c'est un sujet sur lequel il peut se mobiliser et pour faire quoi?
Alors le défenseur des droits, il a en charge la protection des libertés fondamentales au sens assez large. Donc en l'occurrence pour les attentats en 2015, il a été consulté notamment par le Premier ministre et le Président de la République sur les dispositions qui allaient être prises. Et il a ensuite rendu un avis formel sur les différents projets de texte avec ce souci pour lui d'éviter que les mesures qui sont prises en matière de lutte contre le terrorisme n'aient pour effet de restreindre de manière excessive les droits et libertés fondamentales des citoyens. Et donc, à cet égard, il est une voix et donc une des personnalités à donner son avis sur les textes qui sont pris dans ce domaine.
D'accord. Bon. Ça serait peut-être un jour, on arrivera à faire une émission complète sur le rôle du défenseur des droits. Par exemple, là, en le cas d'espèce, est-ce que sa voix a un caractère contraignant? Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'avis consultatif? J'imagine qu'il y a des sujets sur lesquels son rôle est plus ou moins calibré. Là, par exemple, c'est plutôt de quel ordre?
Il a deux types d'interventions. Il y a un avis sur les textes, qui est un avis consultatif, qui est transmis aux parlementaires et à l'exécutif, avec un certain nombre de recommandations que les parlementaires et l'exécutif peuvent suivre ou ne pas suivre. Il a par ailleurs un rôle qui est son cœur de métier, qui est de recevoir les réclamations des citoyens qui ont le sentiment d'avoir connu des atteintes à leurs droits, notamment pour la déontologie de la sécurité. C'est lui qui est en charge de pouvoir contrôler la déontologie des forces de police et de gendarmerie. Et donc dans ce cadre-là, suite notamment à l'adoption de l'état d'urgence, il a eu à rendre un certain nombre de décisions sur des manquements déontologiques qu'il a pu constater.
Et là, ça peut entraîner des poursuites, une fois que lui se positionne, c'est-à-dire que la justice peut être saisie à la suite de ces position-là.
La justice peut être saisie, le défenseur des droits peut déposer des observations
lui-même
pour la justice.
D'accord.
Lui-même et il peut recommander des poursuites disciplinaires également.
D'accord. On va devoir s'arrêter là, mais ça donne vraiment envie d'avoir une émission complète sur ce que fait le défenseur des droits. Peut-être je vous solliciterai si vous êtes d'accord. En attendant, je suis vraiment très très heureux que vous ayez accepté notre invitation. Merci infiniment, Constance Rivière.
Oh. sign foolish deeds. But buried high grows bitter seeds. Though a white man writes his poison lines on annex sands much idolized. In the southern lands still long bereaved, where frozen souls cannot be seen. So build a ship and come in theirs, and cast the sails to the north of nowhere.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8 dans la fabrique politique. C'est l'heure de notre chronique pendant ce temps à Veracruz, le regard décalé sur le thème du jour. Aujourd'hui, on se tourne vers l'Espagne. Un article que j'ai trouvé sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine du 18 avril dernier et dont je vous fais la lecture. La Cour suprême espagnole a rejeté les recours en cassation présentés par un homme et une femme natifs de Bilbao, M. Rodriguez, 38 ans, et Mme Jona Rena, 40 ans, contre leur condamnation à 535 années d'emprisonnement chacun. Ils avaient été condamnés par l'Audience nationale, c'est une haute juridiction spécialisée dans les affaires de terrorisme, notamment pour 45 tentatives d'assassinat terroriste, comme le rappelle l'arrêt des 5 juges de la Cour suprême. Cette décision judiciaire intervient alors que le Pays basque, région du nord de l'Espagne qui compte 2 millions d'habitants, attend la dissolution prochaine de l'ETA, qui avait renoncé à la violence en 2011. Les deux membres de l'ETA étaient accusés d'avoir, dans la nuit du 24 au 25 mai 2005, placé un engin explosif d'une vingtaine de kilos dans le coffre d'un véhicule et ensuite déposé ce véhicule dans le quartier de San Blas à Madrid avec l'intention de provoquer le plus de dommages matériels possible en acceptant d'occasionner la mort ou les blessures des personnes sur place ou à proximité. À 8h45, un appel avait été passé au journal basque Gara pour prévenir qu'une fourgonnette allait exploser à 9h30 dans la rue indiquée, soit trois quarts d'heure avant l'attentat. Finalement, l'explosion avait provoqué des blessures, essentiellement des traumatismes auditifs, à des policiers et à des personnes à proximité, ainsi que des dégâts sur des véhicules et des bâtiments. L'ETA, Organisation de Libération Basque, avait été créée en 1959 en pleine dictature de Franco. On lui attribue aujourd'hui 830 morts et des milliers de blessés au nom de son combat indépendantiste. Il y a un an, l'organisation a déposé les armes en remettant la liste de ses caches à la justice française et la dissolution devrait se produire avant l'été, voire dès le mois de mai, selon une source proche du dossier. Voilà, et en effet, là c'est moi qui vous parle, la dissolution de l'ETA a bien eu lieu le 3 mai 2018, et donc c'était probablement une des dernières condamnations liées à ces actes terroristes. Merci beaucoup Constance Rivière. Pour nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de la Fabrique politique sur Campus Grenoble 90.8. Sont programmées, je l'espère, une émission sur le Fonds monétaire international, voilà, quelque chose qui n'aura rien à voir, une émission sur les organisations syndicales. Vous retrouvez toutes les infos sur la page web de Radio Campus. Et je vous dis à très bientôt.